avant toute chose, je tiens à faire un petit disclaimer, en tout cas pour dire que toutes les photos dans ma présentation sont, en fait, ce sont les miennes, donc j'ai le droit de les utiliser. Ce sont des animaux qui viennent soit de refuge ou en tout cas qui ont été abandonnés, adoptés. Ce sont mes animaux dont je suis la gardienne aujourd'hui. Alors, ma présentation va porter sur cette idée un peu que le travail en santé animale, ou en tout cas dans divers milieux animaliers, disons cette idée qu'il y a un potentiel là, une vulnérabilité peut-être, sans victimiser les gens, une espèce de potentiel de détresse psychologique et même de suicide. Je vais parler un peu des raisons de tout cela et des quelques pistes de réflexion et même critiques. C'est certain que je ne dispose, comme mes collègues, que de 20 minutes, alors ça va s'avérer un survol de toutes ces questions-là. Puis aussi, avant de dire, c'est mon sujet de thèse, mais je suis en deuxième année seulement au doctorat à l'UQAM, et ce qui fait que c'est un peu comme un peu une recension des écrits là, qui va me servir pour ma thèse. Donc, ce ne sont pas mes recherches. Je vais faire un survol de l'état des connaissances à ce jour. Donc, le plan de la présentation, si ça vous va, je vais commencer, on va parler de chiffres, on aime bien les chiffres, pour un peu présenter l'ampleur du phénomène. Les principales théories explicatives qui centrent surtout sur les facteurs de risque, les lacunes dans la littérature à ce jour sur ce sujet-là, des critiques personnelles aussi. Est-ce qu'il y a des interventions qui sont faites pour aider ces personnes-là et quelques pistes finales de réflexion. Donc, alors, commençons dans le vif du sujet. Au niveau des statistiques, de l'ampleur du phénomène là, pour les animaux non humains qui sont les alliés des animaux, qui tentent de les aider par leur travail, professionnel ou bénévole, en termes de chiffres absolus, c'est certain que les chiffres ne sont pas très élevés parce que ce sont pas disons que les professionnels ne sont pas très nombreux, c'est quand même des métiers niches. Alors, on parle plutôt de ratio, de taux de suicide, de taux de détresse psychologique, plutôt que les chiffres absolus, on comprend bien. Alors, il y a une grosse étude en 2015 par Net et collègues, une grosse étude américaine qui a été faite quand même auprès de 10% de l'effectif des vétérinaires américains, c'est-à-dire près de 12 000 vétérinaires. L'âge médian de ces vétérinaires-là était entre 30 et 39 ans et ils avaient entre 10 et 19 ans d'expérience, donc des gens qui étaient déjà dans le domaine. Donc, les chiffres sont quand même assez alarmants. Je vais vous en présenter, mais je vais vous en dire à haute voix. D'abord, sur les personnes sondées, il y avait 9% des répondants qui vivaient une forme de détresse psychologique qualifiée comme étant sévère. Donc, 9%. Près du tiers, 31% avaient déjà vécu au moins un épisode dépressif depuis la fin de leurs études, donc depuis leur diplomation. 17% sur les répondants avaient déjà eu des idéations suicidaires. Attention, pas fait de tentative, mais bien tout le spectre que l'idéation suicidaire peut comprendre. Par contre, 1% d'entre tous les répondants, soit 157 personnes sondées, avaient déjà fait une tentative de suicide. Et quand on sait en suicidologie qu'un des facteurs de risque les plus élevés de décès par suicide, c'est d'avoir déjà fait une tentative. Donc, ce sont de grands chiffres, c'est 1% de ces personnes-là. 19% des personnes sondées recevaient au moment où ils avaient été questionnés un traitement en psychologie, en tout cas en thérapie, pour un problème de santé mentale tout confondu. Donc, les plus fréquents sont l'anxiété, dépression. Alors, globalement, les résultats de cette grosse étude-là, avec un grand échantillon comme ça, c'était que, donc, un vétérinaire sur 11 vivait de la détresse psychologique et un sur 6 avait eu des idéations suicidaires. Donc, c'est vraiment très élevé. Ensuite, donc ça, ce sont des répondants qui sont vivants, là, OK. Évidemment, on est allé leur poser des questions, mais il y a d'autres types d'études en suicidologie qui vont s'intéresser au rapport de coroner. Donc, on regarde les listes, donc les causes de décès qui peuvent être corrélées avec le type de profession. Selon les pays, ce ne sont pas tous les pays qui vont noter le type de décès. Parfois, les suicides Bon, on n'entrera pas dans les détails ici, on n'a pas le temps, mais dans certains pays, le suicide va être, ça va être plutôt écrit mort accidentelle. Donc, ce n'est pas des études qui peuvent être faites dans tous les pays encore, mais les trois études ici, qui viennent donc de Bartram et Baldwin en 2010 au Royaume-Uni, par Jones, Fernie et collègues en 2008 en Australie, et en Norvège par M et collègues en 2005, on voit que les taux au Royaume-Uni étaient 4 fois plus élevés. Donc, on parle de taux de décès par suicide par rapport au reste de la population nationale. Donc, et puis en Australie, 4 fois plus élevé également que la moyenne de la population. Et en Norvège, c'était 2 fois plus élevé. Donc, ce sont quand même des études qui montrent quand même qu'il y a peut-être un petit problème là. Alors, si on s'intéresse au Québec et au Canada, comme on est à Montréal, il y a quand même un désert statistique sur le sujet, malheureusement. C'est un peu l'idée de faire ma thèse sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est un métier niche, le métier de vétérinaire et d'autres professions dans le domaine animalier. Donc, en chiffres absolus, c'est pas beaucoup. On regarde les ratios. Les données que je présente, ce sont des données qui seraient sous-estimées et préliminaires. Donc, ce ne sont pas des données publiées. Mais on m'a donné la permission d'en parler, sont des données qui viennent de l'association, d'une des associations de médecins vétérinaires du Québec qui font le recensement à l'interne. Donc, par bouche à oreille, ils recensent comme ils peuvent par tous les moyens. Alors, quels sont ces chiffres-là? Alors, sur une période de 20 ans, il y aurait eu 200 décès de vétérinaires qui n'étaient pas à la retraite, toutes causes confondues. Donc, 200 décès. Sur ces décès-là, il y aurait eu 12 suicides. Et par différents calculs, on n'entrera pas dans le sujet, mais on regarde les ratios par rapport à l'âge et tout ça. Et ils auraient calculé que ça ferait 54 suicides par 100 000 habitants, qui se traduit par un taux qui est presque 3 fois plus élevé que la moyenne de la population québécoise. Donc, ce sont encore une fois des chiffres préliminaires, probablement sous-estimé. C'est sûr que au fil de ma thèse, dans plusieurs années, on pourra en reparler. Peut-être que ça sera confirmatoire de ces chiffres préliminaires-là. Donc, il y a un problème. Je pense qu'on peut dire ça. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vivent de la détresse et un taux de suicide très élevé? Je pense qu'on a tous une petite idée. C'est certain que le suicide ou même n'importe quel problème de santé mentale, c'est toujours multifactoriel. On ne peut pas vraiment identifier un élément explicatif, là, nécessairement. Par contre, on peut voir qu'il y a des tendances centrales autour des facteurs de risque. Bon. Alors, dans les études, OK, que j'ai recensées, on voit qu'il y a des facteurs liés à des caractéristiques individuelles. Bon, là, j'ai mis affinité avec animaux choix de carrière, c'est-à-dire que les gens qui choisissent, il y a une étude, je ne la cite pas ici, mais il y a une étude qui montrait que, toujours chez les vétérinaires américains, 9 fois sur 10, quand on regarde les tests là, de personnalité, de choix de carrière, tout ça, 9 fois sur 10, ces personnes-là étaient portées à plus aimer les animaux non humains, si on veut. C'était vraiment, vraiment en concordance avec leur personnalité, puis... Voilà, donc 9 fois sur 10, les gens étaient attirés vers la cause, de prodiguer des soins pour les animaux non humains. Bon, là, j'ai mis sexe, mais en fait, c'est non concluant. J'aurais dû l'enlever, je voulais l'enlever, c'est un oubli de ma part, parce qu'il y a quelques études qui montrent que les femmes vétérinaires seraient peut-être plus à risque, mais faites comme s'il n'est pas là, parce que c'est pas concluant. Puis, vous voyez, au Québec, c'était 11 sur les 12 suicides étaient des hommes. Donc, il y a encore beaucoup de confusion par rapport à ça, mais peut-être une avenue de recherche future. Au niveau de l'âge, par contre, celui-là, il est bien là sur ma diapo parce que les diplômés, dans les 5 premières années, les diplômés de médecine vétérinaire sont plus à risque que les professionnels qui sont plus avancés dans leur carrière. Puis il y a une étude, là j'ai mis absence de la peur de la mort parce que des études ont démontré, des études auprès d'étudiants en médecine vétérinaire, qu'ils codent pas très fort tout ce qui est dans les questionnaires qui essaient de sonder l'attitude par rapport à la mort. Bien, il y avait comme une espèce d'absence de cette peur de la mort-là. Pourquoi? Ben là, ça reste à voir, mais en tout cas, ce serait des facteurs de risque de détresse psychologique et de suicide liés à l'individu. Deuxième élément, il y en a trois, il y a aussi des facteurs qui sont liés au milieu de travail. Alors, le niveau de stress global, on peut penser à une clinique où ça va vite, il y a des animaux qui arrivent d'urgence, parfois les gens les amènent trop tard, qui est aussi lié au syndrome du sauveur. Bon, il y a beaucoup de pression pour sauver l'animal, parfois il est trop tard. J'ai mis aussi accès aux moyens létaux parce que la plupart des cas, disons, dans la majorité des cas, le moyen utilisé, ce sont les barbituriques, soit les substances qui sont utilisées pour perpétrer les euthanasies. Donc, c'est sûr qu'avoir l'accès, un peu comme dans les professionnels de la santé humaine, c'est un peu l'accès à toutes sortes de médicaments qui disons, correspond à un facteur de risque lié au milieu de travail. Les relations avec les clients est souvent évoquée dans les études, donc des relations tendues avec les clients, soit parfois par cas de négligence où les gens ont amené leur animal trop tard ou les cas de cruauté animale, ou simplement parce que les gens veulent faire des euthanasies de convenance. Là, je caricature là, à quel point ça arrive souvent, mais parce que la personne trouve que son animal a griffé son sofa ou ne matche plus la couleur du tapis ou quelque chose. Donc, il peut y avoir des tensions. Et enfin, bon, parlant d'euthanasie, par la nature même du travail, quand la tâche est de mettre, de faire écho à ce que mon collègue disait tout à l'heure, de perpétrer la destruction de l'animal, c'est certain que... En tout cas, c'est ce qui ressort dans les études, que c'est un facteur vraiment qui peut être un risque là, de détresse psychologique. PITS, ici, c'est Perpetration-Induced Traumatic Stress, c'est-à-dire le stress traumatique qui est généré par le fait d'induire la mort animale, donc toujours lié à la nature du travail. Et enfin, un autre volet des facteurs de risque, c'est plus au niveau du contexte social. Donc, il y a le stigma, c'est-à-dire l'espèce d'appréciation défavorable face aux problèmes de santé mentale qu'on peut vivre. Donc, c'est encore pas seulement chez ce groupe professionnel-là, chez tout le monde. Il y a une espèce une appréciation défavorable des problèmes de santé mentale. Le comportement de recherche d'aide n'est pas toujours très développé chez ces groupes professionnels-là. Il y a aussi des attentes élevées. Chez les vétérinaires envers eux-mêmes, mais aussi d'autrui envers eux, envers leur profession. Il y a quand même un climat de compétitivité, parfois, y compris au fil des études, donc cette espèce d'idée de performance académique. Donc, ça fait un petit peu le tour. Bon, les lacunes, OK, alors, je voulais dire que, évidemment, il n'y a pas encore beaucoup d'études. Les études parmi celles que j'ai citées, là, on voit que, mais toutes les autres, c'est surtout depuis la quinzaine ou vingtaine dernières années, pardon, qui a de plus en plus d'études. Mais celle qui a, il y a une revue systématique qui a été faite en 2010, qui a quand même généré 52 études, toutes méthodologies confondues, là, qualitatives, quantitatives. Donc, c'est pas énorme pour un sujet qui commence à être de plus en plus d'actualité. Et... Vous avez entendu, j'ai surtout parlé des vétérinaires, donc ce qui, selon moi, représente un problème parce que les autres professions sont quasi invisibles, y compris les bénévoles, parce qu'en psychologie du travail, des études ont montré que autant les bénévoles que les professionnels peuvent être affectés par des contraintes ou des facteurs anxiogènes ou dépressogènes dans leur milieu de travail. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un enjeu de pouvoir par rapport au statut professionnel? Il faudrait se questionner, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait plus d'études sur les autres professions et aussi sur la profession de vétérinaire. Aussi, comment ça se fait qu'on ne regarde pas les facteurs de protection? C'est-à-dire aller sonder un peu comment vont les gens qui tiennent le coup, là, qui vont bien, comment ils font, comment elles font, puis donc peut-être faire un petit shift, essayer de s'attarder pas seulement aux facteurs de risque, mais aux facteurs de protection, les données un peu plus positives. Bon, comme je disais, il y a une lacune, un désert statistique au niveau du Québec et du Canada. Puis, moi, je crois qu'on devrait s'attarder vraiment plus au fardeau de la destruction des animaux, qui repose sur les épaules de dizaines et de dizaines de Québécoises et de Québécois ici qui doivent être responsables de ces euthanasies-là. Là. Puis ce qu'on appelle le caring killing paradox, c'est comme je vous disais, au niveau des caractéristiques individuelles, souvent les gens vont aider les animaux non humains par amour pour ces, les autres animaux, mais ils se retrouvent donc pour care, parce qu'ils s'en préoccupent, mais ils se retrouvent à faire parfois des actes qui ne sont pas vraiment en concordance avec leur, leur amour pour les animaux. Donc, ça s'appelle le caring-killing paradox. Et puis, est-ce qu'il y a des interventions? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une revue systématique qui est sortie il y a 2 semaines là, de Rolf. Elle a recensé seulement 4 articles qui portent sur, spécifiquement sur l'évaluation des interventions chez ces populations professionnelles-là. Donc, c'est vraiment pas énorme. Évidemment, bon, ces interventions-là étaient pour les vétérinaires. Cela dit, je veux quand même dire que dans la littérature grise, c'est-à-dire tout ce qui est informel, soit dans, disons, ce que les cliniques font à l'interne, ce que les organismes peuvent essayer de mettre en place, c'est pas recensé au niveau académique, là, mais il y a probablement d'autres choses qui sont faites. Bon, parfois, il y a un manque de ressources quand peut-être les organismes... sont en collecte de fonds, alors là, ils essaient de ramasser le plus de fonds possible pour aider les animaux. Est-ce qu'il reste des fonds pour le personnel ou les bénévoles? En tout cas, il y a peut-être un problème de manque de ressources qui appartient pas seulement aux organismes, là, mais disons à la volonté politique aussi. Les interventions qui sont recensées, qui existent, alors, il y a des programmes, par exemple, en cadre universitaire qui sont de l'ordre de soutien par les pairs. Donc, les étudiants entre eux. Il y a des programmes aussi de soutien par les pairs, mais plutôt de mentorat entre des vétérinaires doyens ou des techniciens et techniciennes en vétérinaire plus âgés ou en tout cas plus avancés professionnellement avec des personnes récemment diplômées. C'est des exemples aux États-Unis. L'OMVQ, l'Ordre de médecine vétérinaire au Québec, c'était le titre de leur colloque, ou en tout cas le sujet principal, à savoir... le taux de suicide élevé chez leurs membres et, disons, le bien-être psychologique de leurs membres, ce qui, on pense que, je trouve que ça nous donne de l'espoir, là. Il y a des lignes d'écoute qui existent, par exemple, Veto Entraide. Il n'y a pas encore d'évaluation académique qui a été faite, là, de ces interventions-là, mais ça existe. Au Québec, on a une psychologue, Dr Anne-Marie Lamotte, qui a fait sa thèse de doctorat sur, en 2005, si je ne m'abuse, sur le sujet. Elle offre des capacités là, à raison de quelques heures par semaine voilà, aux vétérinaires québécois qui peuvent appeler. Il y a des groupes de soutien un peu dans l'informel. Par exemple, je pense à Vet to Vet puis Not One More Vet. Ce sont des groupes que j'ai trouvés. Là, il y en a peut-être d'autres. Mais ce sont des exemples où ils ont un collègue ou une collègue qui est décédée par suicide. Et donc, ils se sont mobilisés, ils ont créé ça. Donc, il peut y avoir des groupes comme ça qui peuvent être faits. Quelques pistes finales avant de vous quitter, ben c'est ça. Ce serait quand même bien de saisir l'ampleur au Québec auprès des vétérinaires, mais aussi de tous les professionnels en santé animale, que ce soit dans les refuges, les organismes, les cliniques. Et aussi, ben ce qui serait bien évidemment, c'est que ce soit participatif, de collaborer avec les ONG du domaine de la protection animale, pas seulement dans les cliniques vétérinaires. Puis encore une fois, je renfonce le clou aussi. Moi, je trouve que ce serait quand même important de sonder le facteur de risque qui est vraiment lié au fait de donner la mort animale, puis du rôle qu'on joue et le stress traumatique qui peut être induit par le rôle joué dans le fait de donner la mort. Et puis, pour terminer, disons, les étudiants, si je ne m'abuse, ici à l'UDM, bon, dans le programme, on m'a dit qu'il y a 2 cours seulement en santé mentale. Et on peut s'imaginer, par exemple, si je suis vétérinaire, et puis j'ai toute une famille qui arrive avec leur chat, puis qui, là, on ne parle pas du cas d'une euthanasie de convenance, mais disons que c'est une euthanasie qui est faite vraiment pour alléger les souffrances, puis il n'y a vraiment rien à faire, tout ça a été fait. Et là, il y a des membres de la famille qui pleurent, tout le monde est là, il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord, on aurait peut-être pu faire plus. Donc, le professionnel qui n'est peut-être pas suffisamment ou qui ne se sent peut-être pas suffisamment préparé pour faire face au deuil animalier qui se joue devant lui, en plus du rôle qu'elle ou qu'il joue, Donc, voilà, peut-être que ce serait pensable d'inclure plus de cours liés à la santé mentale pour gérer des difficultés de ce genre-là.